le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Accélérer la vaccination. Olivier Véran ouvre à partir de demain la vaccination contre le coronavirus aux personnes de 55 ans et plus, sans condition. Le délai entre deux doses est rallongé. Les autotests arrivent en pharmacie et rapidement dans les écoles. Daniel Messager dans un instant. Un débat animé, des divergences, mais l'Assemblée nationale vote la suppression de certaines lignes aériennes intérieures. Mesure emblématique du projet de loi climat. L'affaire des dîners clandestins. 7500 contrôles, 1000 clients verbalisés. Les restaurateurs risquent des sanctions pénales. La journée mondiale de la maladie de Parkinson, dans un contexte spécial lié à l'épidémie de coronavirus. Invité de ce journal, Denis Robillard, président de l'association France Parkinson. Dans ce journal également, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle 2022. Et en sport, les quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby. La météo, ciel gris et pluvieux du sud-ouest au nord-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition à 13h20. C'est au demain l'amour avec le parfum des plantes sauvages des Alpes de Haute-Provence et Denis Chessoux.
France Inter.
La France s'apprête à franchir le seuil symbolique des 100 000 morts du coronavirus. Un bilan bien sombre de la maladie et à l'approche de ce cap des 100 000 morts, le gouvernement annonce une accélération et un élargissement de la vaccination. Dès demain, toutes les personnes de plus de 55 ans sans comorbidité pourront être vaccinées. Autre mesure pour gagner du terrain face à la maladie, le délai entre deux doses de vaccin est rallongé. Donc dès demain, les 55 ans et plus pourront se faire vacciner avec le nouveau vaccin Johnson & Johnson ou le vaccin en pleine tourmente d'AstraZeneca, Daniel Messager.
Élargir la vaccination, l'a proposé à d'autres tranches d'âge le plus rapidement possible. Les plus de 55 ans, donc sans condition avec le vaccin AstraZeneca. La confiance revient, assure Olivier Véran. 157 000 Français en ont reçu une première dose vendredi. C'est rendu possible aussi parce qu'une grosse livraison est arrivée cette semaine. 1 200 000 doses à destination de la vaccination de ville, c'est-à-dire dans les cabinets des médecins, les pharmaciens, les infirmiers. 3 autres millions de doses sont attendues d'ici fin avril. Pour eux aussi, le vaccin Johnson & Johnson, c'est avec une semaine d'avance que 200 000 doses seront mises à disposition. La seconde annonce du ministre de la Santé porte sur l'espacement des doses. Pour les vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech et Moderna, il était de 28 jours, c'est ce qui avait été étudié dans les essais cliniques. Il passera à 42, pas de baisse d'immunité a priori pendant cette période pour les moins de 70 ans. Pour les plus âgés ou les plus fragiles, le délai pourrait être maintenu à 28 jours sur avis médical. Un schéma vaccinal modifié donc pour tenir encore avant de constater les effets des restrictions. Aujourd'hui, les contaminations sont au plus haut avec 40 000 cas par jour.
Daniel Messager, le recours aux autotests dans les écoles est également prévu. Dès demain, ces kits de dépistage à 6 euros pour commencer seront commercialisés en pharmacie. L'arrêté a été publié ce matin au journal officiel. Ces autotests en vente libre arriveront donc ensuite dans les écoles. Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
On va être à 6 euros sur un prix encadré maximum. Après, il baissera certainement au mois de mai.
C'est risqué ou pas ?
Non, c'est pas risqué, mais enfin, il faut quand même faire attention parce que on va cogner contre certaines masses au milieu du nez. Et si on y va trop fort, ça peut faire très mal. Et si on n'y va pas, et si on ne va pas assez profond, ça ne sert à rien parce que si c'est juste de gratouiller 1 centimètre au bout du nez, autant ne pas acheter de test parce qu'on aura du faux négatif. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Donc nous, quand on va le délivrer, on va apprendre ce geste aux patients qui vont en acheter pour être sûr qu'il soit correctement utilisé et également que l'interprétation soit correcte.
Gilles Bonnefond avec Ersine Lebovitch. Et après un débat animé et des divergences, y compris dans les rangs de la majorité, l'Assemblée nationale a voté cette nuit en première lecture la suppression de certaines lignes aériennes intérieures entre Paris-Orly et Nantes, Lyon ou Bordeaux. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Une mesure emblématique du projet de loi climat, plus de lignes en cas d'alternative en train pour des trajets de moins de 2h30.
Et si la mesure a été votée, elle est très loin de faire l'unanimité pour des raisons économiques d'une part, du PS aux Républicains. Les députés dénoncent un coût humain disproportionné, la casse d'une filière d'exception déjà mise à mal par la pandémie. David Habib est député socialiste des Pyrénées-Atlantiques.
L'industrie aéronautique en Aquitaine et en Occitanie, c'est 1500 entreprises.
Ce qui est fou, c'est que le gouvernement nous dit « mais on pourra les rouvrir, ces liaisons domestiques, dès qu'on aura l'avion vert ». En gros, c'est une interdiction provisoire. Moi, j'aurais préféré qu'on accompagne, qu'on ne mutile pas notre industrie aéronautique, qu'on préserve l'aménagement du territoire et qu'on se comporte de façon plus responsable.
Trop pour certains, trop peu pour d'autres, comme la France Insoumise qui critique un article vide. La mesure épargne en effet les trois connexions les plus émettrices de CO2, Paris-Nice, Paris-Toulouse, Paris-Marseille. La Convention citoyenne pour le climat qui proposait un seuil de 4 heures reste aussi sur sa fin. Sylvain Burquier en est l'un des membres.
Ça n'a plus grand intérêt, mais ça porte une réflexion effectivement sur le trafic aérien. En termes de résultats, ce sera quasi nul, donc on est encore là sur quelque chose de paraître en grande partie par rapport aux mesures qui ont été proposées au départ, mais c'est un premier pas. Nous, on va continuer à pousser ces sujets de toute façon.
Selon les projections du réseau Action Climat, la mesure votée hier soir va se traduire par une réduction de moins de 7% des émissions de CO2 issues des vols intérieurs et 0,5% de l'ensemble des vols au départ de la France.
Delphine Evenoux, merci. L'affaire des dîners clandestins maintenant, avec une traque aux clients qui s'intensifie. À Paris, 7500 contrôles ont été menés, plus de 1000 clients ont été verbalisés depuis le 30 octobre dernier. Cette affaire des dîners clandestins a rebondi hier après que l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a reconnu avoir déjeuné avec l'éditorialiste Alain Duhamel dans un appartement reconverti en restaurant clandestin ou club privé par le chef Christophe Leroy. Les clients verbalisés devront payer une amende. En revanche, les restaurateurs risquent des sanctions pénales, Corinne Audouin.
Pour les clients, le tarif est le même que pour l'absence de masque dans l'espace public ou le non-respect du couvre-feu. Une amende de 135 euros pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur. 1000 clients ont ainsi été verbalisés à Paris depuis 5 mois. Pour les restaurateurs, les risques sont plus importants. Il y a la possibilité de poursuites pénales pour mise en danger de la vie d'autrui, un délit passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, mais également pour travail dissimulé. C'est pour ces deux infractions que le restaurateur Christophe Leroy et l'organisateur Pierre-Jean Chalençon ont été placés en garde à vue vendredi, de même que le gérant d'un restaurant du 19e arrondissement où plus de 100 personnes dînaient vendredi soir. Au-delà des poursuites en justice, les restaurateurs risquent de lourdes pénalités. L'État peut leur réclamer le remboursement des aides reçues depuis le début de la pandémie au titre du Fonds de solidarité. En cas de récidive, enfin, la préfecture peut décider la fermeture administrative de l'établissement.
Corinne Audouin, en cette période de pandémie et de confinement, et sans doute plus difficile encore pour les personnes atteintes de maladies autres que le coronavirus, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qui touche près de 200 000 Français. Un exemple, en Mayenne, où plus de 1000 personnes sont atteintes de cette maladie. C'est le cas d'Annick, une habitante de Saint-Berthevin, près de Laval. Mahuane Bordron a rencontré Annick chez elle.
Annick a 75 ans et en 2016, elle s'est rendue compte que ses gestes devenaient plus lents, qu'elle avait du mal à écrire, mais surtout que sa main droite tremblait.
Au début, je tremblais, mais je disais, tiens, c'est peut-être rien, enfin, ça va se remettre, et puis en fait, pas du tout. Je le voyais surtout quand je conduisais. Je voyais ma main qui tremblait, ou par exemple, si on me servait un verre, bon, ben, je renversais plus ou moins. Parce que j'avais le verre qui tremblait, quoi.
Elle en parle alors à son médecin qui lui conseille d'aller voir un neurologue. Le diagnostic tombe, c'est Parkinson. Il lui prescrit 5 comprimés de Trivastal par jour.
Tout le monde n'a pas le même traitement, je dirais. Pour l'instant, moi, je n'ai que ça. Et ça me réussit, je ne tremble pratiquement plus.
Annick sait qu'il faut beaucoup bouger avec sa maladie, alors elle fait de la danse, de la marche et du chant.
J'avais beaucoup d'activités. Malheureusement, avec le Covid, je ne fais plus rien. Et depuis, ça s'aggrave.
Malgré le contexte, Annick tente de ne plus penser à Parkinson. Je vis normalement, comme si je n'avais rien, sourit-elle.
Annick, atteinte de la maladie de Parkinson avec Mahuane Bordron de France Bleu Mayenne. Cette journée mondiale de la maladie de Parkinson intervient donc dans un contexte très spécial lié à cette épidémie de coronavirus. Invité de ce journal, Denis Robillard, président de l'association France Parkinson. Bonjour Denis Robillard.
Bonjour, c'est Didier Robillard.
Didier Robillard. Voilà, merci en tout cas Didier Robillard d'avoir accepté notre invitation. Vous souffrez vous-même de la maladie de Parkinson depuis 15 ans. Dites-nous en quoi cette période est selon vous une double peine pour les malades de Parkinson.
Eh bien, c'est une double peine parce que le confinement conduit la plupart des malades à s'isoler Or, on sait que la tentation d'isolement est forte quand on est malade de Parkinson et que c'est dommageable pour l'état général du patient. Et donc, cet isolement, ce confinement, cette impossibilité de sortir comme on le veut, de pratiquer des activités physiques, des activités de rencontre, avoir une vie sociale, c'est essentiel pour le malade de Parkinson et la pandémie est un obstacle majeur à cela.
Oui. Didier Robillard, est-ce qu'il y a eu, par exemple, en plus du confinement, des retards ou des pénuries de médicaments dont les malades de Parkinson ont besoin?
Alors, il y a eu des pénuries de médicaments à certains moments, effectivement. Il y a des retards avec des reports d'intervention chirurgicale lorsque certains patients devaient être opérés. C'est sûr que ça a été dommageable sur ce point-là.
Est-ce que cette maladie de Parkinson est un facteur de risque supplémentaire vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus?
Non, ce n'est pas une comorbidité notée. Mm-hmm. Par contre, il y a une fragilité du malade de Parkinson qui le rend plus fragile à d'autres pathologies respiratoires notamment. Mais le malade de Parkinson n'est pas plus exposé que quelqu'un qui n'aurait pas la maladie.
D'accord. Didier Robillard, donc vous organisez aujourd'hui avec votre association France Parkinson plusieurs événements, hein, des conférences, des tables rondes pour faire changer le regard sur Parkinson. Qu'attendez-vous de ces réunions et de ces rencontres?
Alors en fait, cette journée mondiale s'est déroulée hier toute la journée sur un site qui est legranddirect.fr. Et aujourd'hui, ce site est consultable en replay évidemment avec l'ensemble des conférences. Des conférences axées sur l'aspect très pratique de la vie des parkinsoniens, une conférence sur l'habitat, une conférence sur le droit, et une conférence sur un sujet plus tabou qui est la sexualité.
Oui.
Et l'ensemble de ces vidéos sont visionnées en replay sur le site legranddirect.fr.
Denis Robillard, il y a les malades, on en a parlé, il y a aussi les aidants, souvent des aidants familiaux. C'est compliqué pour eux aussi. Comment peut-on les soulager? Comment aider les proches des malades de Parkinson?
Alors, je voudrais d'abord dire que avant d'être aidant, les personnes qui accompagnent un malade de Parkinson sont avant tout des aimants, des conjoints, des enfants, des parents même. Et que nombreux refusent d'être désignés comme des aidants. Certes, avec l'évolution de la maladie, ces accompagnants sont impactés dans leur propre vie et doivent assister au quotidien à la personne malade. Mais j'insiste sur ce lien affectif d'amour qui est le premier et qui diffère du lien de soignant ou d'assistant de vie.
Oui.
Alors, pour bien accompagner une personne malade, il faut certainement bien connaître la personne et bien sûr aussi connaître bien la maladie pour la comprendre. Et c'est pour ça que l'association France Parkinson organise des sessions de formation pour les aidants, pour bien connaître la maladie, pour bien comprendre le malade qui est en face de lui.
On a bien noté, Didier Robillard, des aimants et pas des aidants. Merci beaucoup, Didier Robillard, président de France Parkinson. Merci à vous.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La politique en France avec une gauche toujours loin d'un front uni pour 2022. La réunion des dirigeants de gauche est fixée à samedi prochain, comme l'a souhaité l'écologiste Yannick Jadot. Tous les leaders autour de la même table avec un calendrier commun, la présidentielle de l'an prochain et un objectif encore lointain, montrer que la gauche n'est pas irréconciliable. Et le Parti communiste tient ce week-end sa conférence nationale pour présenter son projet pour la présidentielle et les législatives de 2022. Fabien Roussel, secrétaire national du PC, a été investi candidat à la présidentielle. Les adhérents communistes doivent encore valider sa candidature. Fabien Roussel.
Oui, nous voulons permettre au Parti communiste français, à ses militants, ses militantes, de jouer pleinement leur rôle. C'est le choix que vous avez exprimé majoritairement. Je mesure pleinement combien cette confiance est aussi porteuse d'exigences, y compris me concernant. La situation est grave et elle nécessite surtout d'ouvrir un espoir. Et c'est ce qu'attendent des millions de femmes et d'hommes qui ne se résignent pas au duel Macron-Le Pen. Notre programme, notre ambition pour le pays, c'est de bâtir avec le peuple une république sociale, laïque, féministe, écologiste, démocratique. Je peux vous dire qu'avec moi, l'Élysée, je peux vous dire que tous ces délinquants en col blanc, ils passeront par la case prison. Parce que ça, ce n'est plus possible que ce fléau de la fraude et de l'évasion fiscale qui coûte 100 milliards d'euros au budget de la nation perdure. Nous ne voulons rien soustraire à gauche. Au contraire, nous voulons additionner celles et ceux qui aujourd'hui sont rouges dans leur cœur, mais noirs de colère et qui s'abstiennent. Alors ayons cette ambition pour notre pays, pour la France, pour la République.
Fabien Roussel, propos recueillis par Yaël Gauz. La gauche est-elle en voie de réconciliation? Ce matin, Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle en 2017, a estimé qu'il serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler pour 2022. Des tags islamophobes inscrits sur les murs d'un lieu de prière musulman à Rennes. Une dizaine de tags islamophobes ont été inscrits cette nuit sur les murs du centre culturel à Vicennes, donc à Rennes. Non à l'islamisation. Vive le roi, peut-on lire. Ces inscriptions sont inacceptables. Toute ma solidarité avec les musulmans de notre pays, a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit se rendre sur place dans l'après-midi. À l'étranger, des élections générales aujourd'hui au Pérou. Un vote pour élire le président et renouveler l'intégralité du Congrès et ses 130 députés. Les jeunes qui s'étaient fortement mobilisés contre le Parlement en novembre dernier, accusés de coup d'État, de corruption, se sont cette fois très peu engagés durant la campagne. Manque de représentativité, pandémie, le Pérou a enregistré hier un second record quotidien de décès dus au coronavirus. Et beaucoup de jeunes donc pensent voter blanc ou nul ou sont encore très indécis juste avant le scrutin. Sur place à Lima, Amanda Chaparro.
Ils s'appellent Pacha Ochino Junior. Ils étaient dans les rues en novembre dernier au cours d'une des plus grandes mobilisations de la jeunesse contre le pouvoir. Mais à quelques jours des élections, beaucoup d'entre eux se sentent désabusés. Ils ne savent pas quel bulletin glisser dans l'urne, à l'image de Junior, 29 ans.
J'ai vu les derniers débats et tout ce que j'ai vu, ce sont des gens qui se disputent, alors qu'un débat devrait servir à exposer ses idées. Ça ne m'a pas du tout aidé à faire mon choix.
Car il faut pouvoir s'y retrouver parmi les 18 candidats en lice, dont aucun ne suscite l'engouement. 6 d'entre eux sont poursuivis pour corruption par la justice. Pacha, 26 ans, était en première ligne des manifestations de novembre. Il y a perdu son frère, tué par la police. Il ira voter dimanche, mais sans enthousiasme.
Le problème, c'est que la politique est abîmée. Elle est utilisée pour servir des intérêts personnels, et ça, beaucoup de jeunes le savent.
Oshin, elle, a sa candidate, celle de gauche, Veronica Mendoza, et se désole que beaucoup de ses camarades ne se sentent pas concernés par cette élection.
Beaucoup de jeunes se tiennent éloignés des réalités, et seulement quand quelque chose de grave arrive, ils se mobilisent. Mais on ne devrait pas attendre d'en arriver là.
Les candidats devraient être difficiles à départager. Les 6 premiers dans les intentions de vote sont dans un mouchoir de poche et aucun ne dépasse la barre des 15%.
Amanda Chaparro à Lima, au Pérou. Le rendez-vous en sport pour terminer aujourd'hui avec la Coupe d'Europe de rugby. Et c'est les quarts de finale en ce moment. On sait déjà qu'il y aura 3 clubs français en demi-finale. Après La Rochelle qui s'est qualifiée hier après-midi en écrasant les Anglais de Sale 45-21. Dans moins d'un quart d'heure maintenant, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92 avec des internationaux de chaque côté et l'ouvreur de l'UBB, Mathieu Jalibert, en pleine confiance en direct du stade Chaban-Delmas à Bordeaux. On retrouve Guillaume Dreschler. Bonjour. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous.
Une équipe de Bordeaux sans complexe face à un Racing 92, grand habitué des phases finales de Coupe d'Europe.
Oui, parce que Bordeaux-Bègles n'a rien à perdre aujourd'hui. Premier quart de finale de son histoire. Bordeaux-Bègles, c'est un club créé en 2006 d'une fusion entre le Stade Bordelais et le CA Bègles. Bordeaux-Bègles n'a jamais disputé de phase finale de championnat de France. Le Racing, lui, eh bien, est le dernier finaliste de la Coupe d'Europe qui a perdu contre Exeter. C'était en septembre dernier. Le Racing fait figure de mastodonte contre l'UBB. Le Racing a gagné 56-3 en huitième de finale. Bordeaux-Bègles a battu le leader du championnat d'Angleterre, Bristol. Le Racing est bien le favori, mais Bordeaux-Bègles a toutes les chances aujourd'hui.
Guillaume Dreschler à Bordeaux, merci. Dernier quart de finale à 16h avec à l'affiche un grand classique du rugby français, Clermont-Toulouse. Le temps pour demain et pour cet après-midi aussi.
La météo avec les meubles Gautier, créateur, designer et fabricant français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
De la pluie et une relative douceur cet après-midi à l'est, mais à l'ouest, sous un ciel d'averse, le vent du nord va rendre l'ambiance plus fraîche. Il est prévu par exemple 17 à 21 degrés entre la Méditerranée, le Dauphiné, l'Alsace et la Corse, contre au grand maximum 10 à 12 près de l'océan et parfois à peine 7 au nord de la Loire. Sous les températures les plus douces, c'est un régime de pluie qui va s'imposer sur la moitié est du pays, des pluies assez fortes avec de la neige en moyenne montagne. Sous la fraîcheur de la moitié nord et de l'ouest, le ciel sera variable avec des averses, instabilité qui sera plus marquée entre la Bretagne, la Basse-Normandie et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Demain, la fraîcheur va gagner la plupart des régions avec beaucoup de vent et du soleil autour de la Méditerranée. Des averses de neige à basse altitude le matin sur les massifs de l'est. Sur la moitié ouest, le soleil va refaire surface, mais au nord de la Seine, les ondées seront parfois mêlées de flocons avec, au lever du jour, des gelées au sol assez fréquentes au nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France.